Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise.
Donald Trump, le 47e président des États-Unis, a prêté serment au Capitole hier avant de promettre un nouvel âge d'or à l'Amérique au cours de son discours. Il a déjà adopté de nombreuses mesures phares. Cette nuit, le président républicain Donald Trump, à peine investi, a annulé des sanctions prises par l'administration de son prédécesseur démocrate, Joe Biden, contre les colons israéliens, accusés d'avoir commis des violences contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Les précisions dans cette édition. Comment les Palestiniens voient ce retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche? Nous avons recueilli le témoignage d'un habitant de la bande de Gaza. Vous l'entendrez dans cette édition. C'est un passage obligé pour les élèves de terminale qui souhaitent entamer des études supérieures. La plateforme Parcoursup, les inscriptions sont ouvertes depuis une semaine. Comment cela fonctionne-t-il? Réponse avec Elisa Monjol, porte-parole du syndicat étudiant Lafage. Je vous le disais, Donald Trump est devenu donc le 47e président des États-Unis. Rompons avec la tradition. Le président républicain a prononcé son discours à l'intérieur de la rotonde du Capitole en raison du froid glacial qui régnait à l'extérieur. Il s'est adressé à plusieurs centaines d'élus et de personnalités pro-Trump, dont le titan de la technologie Elon Musk. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant, a déclaré Donald Trump. Notre priorité absolue sera de créer une nation fière, prospère et libre, ce sont les mots forts du président américain. Le chef d'État a déjà signé une rafale de décrets juste après son investiture. Une série de mesures, notamment sur l'immigration. Tour d'horizon des promesses avec François-Xavier de Calonne.
Oui, Wallis, à peine investi, le nouvel hôte de la Maison-Blanche a signé une avalanche de décrets. Et il en a aussi révoqué, comme celui pris par Joe Biden le 1er février dernier, autorisant l'imposition de sanctions contre les personnes nuisant à la paix, la sécurité et la stabilité en Cisjordanie. Des sanctions avaient été prises contre des personnes ou des entités en gelant notamment leurs avoirs aux États-Unis. Cela après que l'administration Biden avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement israélien d'agir face aux agissements de colons, considérés alors par Washington comme nuisible à une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens. Cette décision de Donald Trump marque ainsi un revirement sur l'une des politiques majeures décidées par l'administration de Joe Biden. Donald Trump a aussi lancé son offensive contre l'immigration clandestine. Le nouveau président américain a notamment décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Il s'est attaqué au droit d'asile et au droit du sol. Une application qui permettait à certains migrants de demander l'asile sans avoir besoin d'atteindre la frontière a été désactivée par la nouvelle administration et un message indique désormais que les rendez-vous existants ont été annulés. Le nouvel hôte de la Maison-Blanche avait annoncé la couleur hier soir avec ces mots lors de son discours d'investiture. Toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels d'où ils viennent. Ce sont ces mots. Autre mesure prise par le président des États-Unis, le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Washington quitte également l'Organisation mondiale de la santé. Il a aussi annoncé que les États-Unis ne reconnaîtraient plus que deux sexes, masculin et féminin, définis à la naissance. Et il a promis de balayer les politiques en faveur des personnes transgenres. Donald Trump a aussi gracié la quasi-totalité des 1500 personnes condamnées pour l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.
À peine investi, donc Donald Trump a donc annulé le décret pris par son prédécesseur Joe Biden qui sanctionnait des colons israéliens accusés de violence contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Cette annonce a fait réagir le gouvernement palestinien. La levée des sanctions américaines contre des colons extrémistes, je cite, annoncée par Donald Trump, va les inciter à commettre plus de crimes, a annoncé le ministère des Affaires étrangères palestinien dans un communiqué. Et pourtant, après des mois de pourparlers sur le cessez-le-feu, les discussions ont été concluantes suite à la médiation de l'envoyé spécial de Donald Trump, le promoteur immobilier Steve Victoff, en Palestine. Ziad Medouk, habitant de la bande de Gaza, estime que la population jugera Donald Trump pas sur les paroles, mais sur les actes. Écoutez ce témoignage.
Écoutez, d'abord, c'est le deuxième mandat de président américain Donald Trump. Donc, nous, les Palestiniens, on juge les présidents, les personnalités selon les actes et pas seulement les déclarations et les paroles. Donc, il faut attendre 2 à 3 mois pour voir sa politique claire au Moyen-Orient. Ça d'une part, et d'autre part, je pense que Donald Trump de 2016-2020 sera différent de cette année, donc à partir de 2025, pour plusieurs raisons. Raisons liées à la politique interne américaine, la politique migratoire, politique de Joe Biden, de président sortant. Donc il y a plusieurs facteurs qui déterminent ça. Et un autre aspect très important, Donald Trump, il a joué un rôle très important dans la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et les factions de Gaza. Et je pense que ce succès va lui dire donc beaucoup de mérite côté palestinien. Et c'est pour cela, beaucoup de Palestiniens, y compris les factions palestiniennes, ils ont salué donc les efforts américains. Mais en général, il faut attendre les deux, trois premiers mois. Donc, je ne peux pas dire que je suis pessimiste. C'est vrai, entre 2016 et 2020, il était dur avec les Palestiniens, avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël, avec le deal de siècle, la normalisation de quelques pays arabes avec l'entité sioniste. Donc, voilà. Mais je pense qu'en 2025, Trump sera différent. Mais en général, on doit attendre sa politique claire au Proche-Orient, ses conseillers donc, pour le Proche-Orient, pour voir ses actes. Est-ce qu'il sera favorable donc, pour un État palestinien? Est-ce qu'il va être favorable pour les droits fondamentaux de peuple palestinien? Je pense qu'on doit attendre les jours, voire les mois qui viennent après son arrivée au pouvoir pour juger sa politique.
Et justement, vous êtes plutôt optimiste, vous, sur la potentielle reconnaissance de... Voilà, si Donald Trump doit se prononcer sur la reconnaissance de la Palestine, vous êtes optimiste sur ça ?
Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui ont changé. D'abord, il y a la normalisation. Donc, après la signature de l'accord, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de promesses donc, de la part de la direction Trump aux Israéliens. D'abord, le dossier iranien, le nucléaire iranien, ça, numéro un. Numéro deux, il y a la normalisation avec l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes. Et je pense que Donald Trump il va être obligé à reconnaître l'État de Palestine, étant donné que l'Arabie saoudite elle a donné ça comme une condition de normaliser ses relations donc, diplomatiques avec Israël. Je pense que Trump, il ne veut pas beaucoup de problèmes à l'extérieur, il va s'occuper de sa politique interne, les impôts, les émirés, et je pense qu'il a d'autres priorités. La Corée du Nord, le dossier iranien, nucléaire iranien, la Chine, la Russie, la guerre en Ukraine, et je pense au Moyen-Orient, c'est pour cela qu'il a accéléré les démarches pour arriver à un cessez-le-feu. Et j'espère qu'il y aura une suite de cet accord, c'est-à-dire relancer le processus de paix en plein échec et surtout reconnaître l'État de Palestine pour amener la stabilité dans la région.
C'était Ziad Medouk. Dans le reste de l'actualité, le Hezbollah a félicité le peuple palestinien et sa résistance, je cite, pour la grande victoire constituée par le cessez-le-feu, entrée en vigueur dimanche entre le Hamas et l'État hébreu après un conflit de plus d'un an à Gaza. Plus de 500 camions d'aide humanitaire sont entrés hier dans la bande de Gaza, soit plus que le nombre fixé par l'accord de trêve en vigueur depuis dimanche, selon l'ONU. Les 2 millions d'habitants du territoire palestinien font face toujours à une situation humanitaire catastrophique. En Turquie, 10 personnes sont mortes et plus de 30 personnes ont été blessées lors d'un incendie survenu dans la nuit dans un hôtel dans le centre du pays. Que demain, Mayotte ne soit plus seulement l'atoll, les machettes ou les kwassa-kwassa, c'est le vœu en forme d'engagement formulé par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à la tribune de l'Assemblée nationale. Une ambition qui ne pourra se réaliser qu'en plusieurs étapes, selon le ministre des Outre-mer. La première étape s'inscrit dans le projet de loi d'urgence que le ministre est venu défendre hier devant les députés, 5 semaines après que l'archipel a été dévasté par le cyclone Chido. C'était donc le 14 décembre. Justement, focus sur la situation aujourd'hui à Mayotte et aussi sur l'absence de bilan précis. Après ce drame, je vous propose d'écouter Jeanne Bellangui, directrice de l'Observatoire des Outre-mer à la Fondation Jean Jaurès. Écoutez-la.
Un peu de vent contraire, donc de la part des pouvoirs publics, on est plutôt positif sur un rétablissement de l'eau et l'électricité. Toucherait déjà quasiment toute la population, mais de la part des associations locales et de la population locale, il y a quand même un vent contraire qui indique qu'une grande partie de la population a encore de grandes difficultés à avoir accès à de l'eau potable, ce qui est déjà aussi le cas le reste de l'année, étant donné que Mayotte subit des tours d'eau. Et idem pour l'électricité. Donc, on a quand même quelques interrogations sur ce qui se passe réellement sur place, mais il faut prendre en considération la voix de ceux qui se trouvent sur place. Et je pense que les députés maorais, notamment Essa Youssoufa, rappelaient ces deux vents contraires justement en commission lors des échanges sur le projet de loi à Mayotte.
Et sur la question de la reconstruction et de l'indemnisation, de très nombreuses habitations ont été détruites. De nombreux élus sur place soulignent que de nombreux Maorais ne disposent pas de titre de propriété et que cela pose un vrai problème pour l'indemnisation justement et la reconstruction.
Oui, c'est vrai que les titres de propriété sont très rares. Donc la question du foncier est cruciale, sachant que l'habitat précaire s'est développé sur l'ensemble de l'île et que les conditions de logement n'ont pas cessé de se dégrader. Sur les 84 000 logements, on dénombrait 33 000 bidonvilles qui abritaient 100 000 personnes. Donc la question du foncier va être au cœur des échanges, mais ce n'est pas encore au cœur de ce projet de loi d'urgence. Ce sera certainement abordé dans les projets de loi qui viendront par la suite.
Jeanne Bellanyi, directrice de l'Observatoire des Outre-mer à la Fondation Jean Jaurès, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est un passage obligé pour les élèves de terminale qui souhaitent entamer des études supérieures. Gros plan sur la plateforme Parcoursup. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 janvier et jusqu'au 13 mars prochain. Comment cela fonctionne? Elisa Monjol, porte-parole du syndicat étudiant Lafage. Écoutez-la.
Là, on vient d'entrer dans la deuxième phase de Parcoursup, en effet. On avait déjà une première phase qui était ouverte depuis quelques semaines pour que les étudiantes et étudiants puissent s'informer sur les formations qui étaient disponibles sur la plateforme. Maintenant, on est sur la deuxième phase qui est la phase de formulation des vœux, c'est-à-dire que les jeunes peuvent formuler 10 vœux dans des formations initiales classiques et 10 vœux dans des formations en apprentissage, avec aussi des sous-vœux qui peuvent être sur, par exemple, une mention dans la formation ou une précision. Donc on est dans cette phase-là, qui va durer encore quelques semaines.
Vous portez quel regard sur ce dispositif ?
Alors nous, la plateforme Parcoursup, on pense que c'est nécessaire au vu du contexte actuel parce qu'on n'a pas assez de place dans les universités, mais on aime bien aussi porter un regard qui est plus dézoomé en fait et de se dire que c'est quand même assez dommage qu'on soit obligé aujourd'hui d'avoir une plateforme pour sélectionner où on va. Et en fait ça veut dire que on ne peut pas nécessairement aller dans la formation de ses rêves et de son choix initialement et que des fois on va être obligé de faire des sacrifices pour aller dans d'autres formations. Donc nous c'est plus ça qui nous pose problème et en fait le problème il vient de plus haut, il vient aussi du financement des universités, il vient aussi du fait que même en termes d'orientation il y a encore beaucoup à faire pour que les jeunes soient plus informés de ce qu'ils peuvent faire derrière.
Et justement quelle évolution et quelles mesures concrètes pourraient ou devraient selon vous être prises ?
En termes de financement des universités c'est quelque chose dont on a pu parler récemment aussi avec les énormes coupures qui vont être faites, donc pour nous il y a déjà un énorme travail à faire par le gouvernement sur le budget des universités pour les financer à la hauteur et en fait ne pas les sous-financer et ne pas entraîner des fermetures de places dans des formations et surtout des formations qui sont demandées par les lycéens et lycéennes. Donc ça c'est la première chose. Et après nous ce qu'on demande aussi c'est un réel accompagnement dès le plus jeune âge en fait sur l'orientation. Il y a beaucoup de choses à faire en fait, même sur le fait d'informer les jeunes sur les voies qui existent et de leur expliquer concrètement à quoi correspond chaque voie. Pour nous il y a un énorme travail à faire à la source en fait, que ce soit sur les universités ou même plutôt de l'école, collège, lycée.
Est-ce que c'est un système juste et équilibré sur l'ensemble du territoire français ?
Non, il y a toujours des disparités territoriales, même des disparités en fait en fonction du lycée d'origine. En fait, il y a beaucoup de discriminations, mine de rien, qui peuvent être faites sur une sélection. À partir du moment où on sélectionne des jeunes sur leur dossier, il y a forcément des discriminations derrière et des disparités en fonction des territoires. Il va y avoir des territoires où il y a certaines formations qui vont plus fermer parce qu'on va être sur des petits territoires. Il y a même des antennes qui sont menacées d'être fermées aussi. On ne sait pas, ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura toujours autant de formations sur Parcoursup, même en 2026 ? C'est une question bête, mais dont on n'a pas la réponse encore aujourd'hui. Est-ce que toutes les antennes vont pouvoir rester ouvertes ? Est-ce qu'il y aura toujours toutes les formations dans les villes de taille moyenne ? Ça, c'est une question dont on n'a pas la réponse et qui nous inquiète.
Une personne qui vous écoute et qui souhaite avoir encore davantage d'informations, où doit-elle ou peut-elle se renseigner ?
Bah, premièrement, sur la plateforme Parcoursup directement, parce que c'est toujours important de pouvoir découvrir la plateforme par soi-même. Après, nous, on a mis en place un dispositif qui s'appelle SOS Parcoursup aussi, que vous pouvez retrouver très facilement en tapant sos-parcoursup.fr, et une équipe de la FACH pourra vous répondre, vous accompagner sur ce choix-là et vous donner quelques précisions si c'est nécessaire.
C'était donc Elisa Mangeol, porte-parole du syndicat étudiant La Fage, au micro de François-Xavier de Calonne. Dans le reste de l'actualité, on l'a appris, le gouvernement taliban en Afghanistan a annoncé aujourd'hui la libération par les États-Unis d'un détenu afghan en échange de prisonniers américains au terme de longues discussions facilitées, je cite, par le Qatar et au lendemain donc de l'investiture de Donald Trump. Le détenu afghan purgeait une peine à perpétuité en Californie après avoir été il y a près de 2 décennies. Si on l'a appris également il y a quelques instants, retour en France, le réalisateur Bertrand Blier, célèbre pour ses comédies Les Valseuses, Tenue de soirée et Buffet froid, est décédé à l'âge de 85 ans. C'est son entourage qui l'a annoncé à l'AFP. Il avait remporté notamment l'Oscar du meilleur film étranger en 1979 pour Préparer vos mouchoirs. Et puis enfin du sport, suite de la phase de la poule de la Ligue des Champions, célèbre compétition européenne évidemment. Monaco, qui connaît un passage à vide en championnat, en Ligue 1 en ce moment, affronte les Anglais d'Aston Villa ce soir. Et enfin, une belle affiche notamment, le club français de Lille accueille, qui est actuellement 8e du championnat de la compétition, se déplace chez les Anglais de Liverpool, leader du classement. Dans les autres rencontres, l'Atlético Madrid reçoit les Allemands du Bayer Leverkusen et Barcelone se déplace au Portugal pour affronter le Benfica Lisbonne. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.